Le journal Pierre Veille, bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, veut assouplir les règles sanitaires dans les écoles. Faut-il plus généralement alléger les mesures anti-Covid ? Nous interrogerons en direct l'épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy, Catherine Hill. Le déconfinement chez des fleuristes qui espèrent beaucoup de cette journée, la fête des mères. On sera à Tours sur le marché aux fleurs. Pour lutter contre les masques, gants et mégots jetés par terre, une amende de 135 € contre 68 actuellement, annonce de la secrétaire d'État à la transition écologique. La mobilisation massive contre le racisme et les violences policières à travers la planète, notamment aux États-Unis, des dizaines de milliers de manifestants à Washington, sous les fenêtres de la Maison Blanche. Si les Américains veulent que les choses changent, ils doivent élire des policiers, des shérifs qui respectent les droits de l'homme. C'est ce que dit un spécialiste des États-Unis. Nous l'écouterons dans ce journal. Et puis les sports, sans l'épidémie de coronavirus, nous aurions vécu aujourd'hui la finale de Roland-Garros avec Fabrice Abgral, les souvenirs d'Henri Lecomte, finaliste de Roland-Garros il y a 32 ans.
France Inter.
Les brutalités policières, le racisme systématique et le gars qu'on a à la Maison Blanche, il faut changer tout cela. Il faut réformer la police. Et au mois de novembre, il faut qu'on aille voter pour se débarrasser de Trump.
Hier soir, à Washington, un manifestant antiraciste mobilisé contre les violences policières et Donald Trump au micro de Grégory Phillips. C'était une indignation mondiale hier. Malgré la pandémie de coronavirus, des dizaines de milliers de personnes sur la planète ont battu le pavé pour exprimer leur ras-le-bol du racisme et des brutalités policières. Après la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis il y a 2 semaines, du Royaume-Uni à l'Australie en passant par le Canada, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la Tunisie, les manifestants ont bravé les appels des autorités à rester chez soi en raison de la crise sanitaire. En France aussi, 23 000 personnes dans tout le pays selon la police. Et puis on vient de l'entendre, aux États-Unis, des dizaines de milliers de manifestants à Philadelphie, New York, San Francisco et Washington devant la Maison Blanche où se trouvait Donald Trump. Sa réaction, un tweet pour noter que la foule a été beaucoup moins importante que prévu. Quelles peuvent être les conséquences en Amérique après ces rassemblements? Écoutez ce qu'en dit Romain Huret, il est historien, spécialiste des États-Unis, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales.
L'enjeu, il est politique, c'est-à-dire comment transcrire ces manifestations en actes politiques très précis qui vont mettre un terme à ces violences policières, aux inégalités. Et c'est là tout l'enjeu de l'élection de novembre, hein, avec des enjeux qui sont très différents. Il y a d'abord des enjeux locaux. Et la police aux États-Unis est une réalité locale. Ce sont des shérifs qui sont élus sur des programmes électoraux. Il va y avoir des élections locales et ça sera à la population de voter pour le bon shérif qui acceptera ou non de réformer la police et de mettre en place des pratiques d'arrestation moins violentes que ce qu'elles sont actuellement. L'autre enjeu, il est national. Ça sera bien évidemment l'élection présidentielle. On voit bien que la mobilisation va bien au-delà de la question extrêmement grave du racisme. Elle porte sur ce qui est acceptable et inacceptable dans une démocratie. Mmh. Et beaucoup de manifestants estiment que ce qui se joue aux États-Unis depuis 3 ans va au-delà de ce que l'on peut accepter et ne pas accepter. Et il est probable que Joe Biden porte sa campagne sur ce qui est acceptable dans une démocratie, ce qui est légitime dans une démocratie, ce qui ne l'est pas. Et pour beaucoup, ce que fait Trump depuis 3 ans va au-delà de ce qu'on peut accepter en tant que citoyen.
Romain Huret avec Matteo Maestracci sur franceinter.fr à voir de nombreuses images des manifestations hier aux États-Unis. Des manifestations antiracistes. Encore ce matin, à Madrid, ils étaient plusieurs milliers devant l'ambassade américaine. Sur place, notre correspondant Mathieu de Taillac.
Las vidas negras también importan, les vies noires elles aussi sont importantes, voilà comment l'on dit, comment l'on crie en espagnol, Black Lives Matter. Un collectif national s'est monté pour l'occasion, les manifestations antiracistes ne sont pas si courantes dans le pays, encore moins devant l'ambassade des États-Unis, Calle Serrano, la rue la plus chère et souvent la plus tranquille de Madrid. Bayem Baifal, madrilène d'origine sénégalaise, est venu avec 2 amis.
Partout il y a du racisme, tout le temps, c'est absurde. Le cas de George Floyd, il a été filmé, mais il y a aussi d'autres cas, plus nombreux qui n'ont pas été filmés, qui n'ont pas été vus. On est là pour se battre pour ça, aussi pour que la paix règne dans ce monde. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix.
Les manifestants dénoncent aussi le racisme en Espagne.
La police, surtout. Quand tu es noir, c'est plus facile pour que tu attaques quelque chose. Par exemple, aussi pour les sans-papiers, ça c'est plus difficile. Quand on n'a pas de papiers, on essaie de la chercher dans les rues, mais c'est pas facile. Mais la population de Madrid, je vois qu'ils sont bien accueillants aussi.
L'immigration d'origine africaine est relativement récente dans la péninsule. Elle est surtout de première génération. En plein confinement, le pays compte sur les travailleurs immigrés dans l'agriculture. Ces derniers se plaignent de conditions parfois extrêmement difficiles et des refus de certains propriétaires de loger les travailleurs. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
L'historien Pascal Blanchard, spécialiste de l'histoire coloniale et des immigrations, sera sur France Inter ce soir entre 18h15 et 19h pour évoquer la mort de George Floyd aux États-Unis, mais aussi les manifestations en France. À 19h20, au téléphone sonne, retour au collège et au lycée, rattrapage, orientation, peut-on sauver l'année scolaire? Vos questions, vos appels dès 17h au 01 45 24 7000, le 18-20 sur France Inter le dimanche avec Claire Servajan. Les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégés d'ici fin juin face au coronavirus, notamment pour les repas, les récréations ou le sport. C'est ce que dit Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, dans une interview au journal du dimanche. Il répond ainsi à ceux qui jugent le protocole scolaire trop strict, voire inapplicable. Ces critiques visent aussi l'ensemble des mesures anti-Covid. Faut-il les alléger? En ligne avec nous, Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif. Bonjour.
Bonjour.
Catherine Hill, est-ce que Jean-François Delfrécy a raison d'être favorable à des règles moins strictes à l'école?
Ben, je ne trouve pas ça très prudent, en fait. Le virus continue à circuler. Il y a des foyers à peu près partout. Et encore, on ne les connaît pas tous parce qu'on ne sait pas s'il y a des foyers dans les EHPAD et dans les milieux familiales parce qu'on ne les compte pas. Sur les 150 foyers qu'on connaissait dans le dernier bilan, il y en avait 5 qui étaient dans les écoles ou à l'université. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans les universités. Donc, je pense que c'était plutôt dans les écoles. Donc, le virus arrive dans les écoles et il y a des grandes personnes qui travaillent dans les écoles qui vont tomber malades. Donc, ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je crois qu'il faut continuer à faire attention partout. Et c'est trop tôt pour voir le début de l'épidémie reprendre.
On a des chiffres. Le nombre de morts a augmenté de 31 dans les hôpitaux français sur les dernières 24 heures. 1059 personnes en réanimation. Pour beaucoup d'observateurs et beaucoup de Français, c'est le signe que cette épidémie disparaît peu à peu. Qu'en pensez-vous?
Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est quelque chose de constant et à très bas bruit. Donc l'épidémie semble assez contrôlée. Mais le problème, c'est que c'est trop tôt. Les gens de l'Ontario ont fait une estimation de ce qui allait se passer dans l'Ontario après 8 semaines de déconfinement. Et ils ont dit que selon la façon dont la population se conduirait après le déconfinement, si elle restait très très prudente ou moyennement prudente, il faudrait entre 4 et 6 semaines, 7 semaines, pour voir réaugmenter les risques. Donc, on n'est même pas à 4 semaines. On sera demain à 4 semaines après le début du déconfinement. Et c'est seulement à partir de demain qu'on pourra se demander si on voit une réaugmentation ou pas. Donc, il faut être très, très prudent pour l'instant. C'est trop tôt pour dire.
Quels sont les gestes qu'il faut, les attitudes qu'il faut maintenir absolument si on veut juguler, freiner, anéantir petit à petit cette épidémie?
Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est le port du masque. Mmh. Les gens ne portent pas de masque. Hier, je suis sortie dans Paris, j'ai rencontré pas beaucoup de gens avec des masques. Je veux dire, le port du masque est impératif, pas tellement pour vous, pour que vous n'attrapiez pas le coronavirus, mais pour que celui d'en face, qui est le porteur asymptomatique, ne crache pas son coronavirus partout autour de lui. Donc, le problème, c'est que la moitié des contaminations viennent de gens qui sont asymptomatiques et les gens ne se savent pas contaminants. Donc, il faut que tout le monde porte un masque. Et
Catherine,
ça, on n'a pas l'air d'y arriver du tout, du tout.
Les manifestations d'hier en France et même dans le monde, ces milliers de personnes qui se sont mobilisées, est-ce que ces manifestations risquent de favoriser la propagation du virus?
Ben oui, évidemment. La probabilité que vous rencontriez quelqu'un qui est positif augmente avec le nombre de gens que vous croisez, surtout s'ils n'ont pas de masque.
Faut-il craindre aussi une relance de l'épidémie avec l'ouverture des frontières en Europe dans le courant de ce mois de juin ?
Oui, mais le virus circule partout en France. Il suffit de regarder la carte des foyers. Mmh. Donc, ça va rajouter un petit peu. C'est juste, le risque dépend du nombre de gens que vous croisez et du fait que ces gens que vous croisez sont les mêmes que ceux que vous avez croisés hier ou des gens différents. Donc, si vous croisez plus de gens différents parce qu'il y a des touristes qui arrivent ou des Espagnols, ouais, ou Dieu sait, ou des gens qui arrivent d'un endroit où il y a simplement des Parisiens qui arrivent dans le sud où il y a moins de virus jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais quand on regarde les foyers, on voit que le virus est partout de toute façon.
Merci Catherine Hill, était notre invitée épidémiologiste à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif. C'est une nouvelle pollution apparue lors de la crise du Covid-19. Les masques jetés par terre, on en voit partout sur les trottoirs, les plages, les forêts. La secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson annonce une hausse des amendes pour tous ceux qui salissent la nature avec leurs déchets. Les masques bien sûr, mais aussi les gants, les mégots, sans oublier les dépôts sauvages d'ordures. Brune Poirson, ce matin, au micro de Solène Delarquier de France Bleu Gironde.
Si on veut un océan propre, si nous voulons une mer propre, alors il nous faut des trottoirs propres. Tout simplement parce que avec les cours d'eau, avec le vent, les déchets qui sont laissés sur nos trottoirs, que ce soit à Carpentras, à Strasbourg ou à Bordeaux, eh bien, ils finissent nécessairement leur course dans nos océans, sur nos plages et dans nos mers. Et avec la crise du coronavirus, a émergé une nouvelle catégorie de déchets plastiques, que sont par exemple les masques, les gants, les lingettes jetables. Et tout ça vient polluer l'environnement. Et c'est pour cette raison-là que, pour lutter contre les incivilités, eh bien que le gouvernement a décidé de durcir les sanctions, avec notamment les amendes. Quand on abandonne des déchets sur la voie publique, l'amende aujourd'hui elle est à 68 euros, elle va passer à 135 euros et elle pourra monter jusqu'à 375 euros.
Voilà, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Alors, le durcissement de ces amendes va-t-il être efficace, dissuasif? Faustine Calmel, les associations de défense de l'environnement jugent que c'est la mise en œuvre qui sera délicate.
Tous les dimanches, Joko, cofondateur de l'association Opération Mer Propre, plonge au large d'Antibout de Cannes.
Il y a deux semaines, on a commencé à voir les premiers déchets Covid, donc des gants, des masques.
Déchets jetés sur la voie publique et qui finissent dans le caniveau, puis dans la mer. Alors les amendes, pourquoi pas, mais encore faut-il pouvoir verbaliser.
Faire une loi est facile, la faire appliquer est beaucoup plus difficile. Et sur le terrain, aujourd'hui, ça dépend des municipalités, c'est pas appliqué. Ou par manque de moyens, ou parce qu'ils n'ont pas d'agents dédiés justement à ce type de pollution.
La répression n'est de toute façon pas le seul levier. Opération Mer Propre avance la nécessaire pédagogie. Solution partagée par Antidia Citores, porte-parole de la fondation Surf Rider, qui elle aussi milite pour la protection des plages et des océans.
La priorité, c'est la prévention. C'est-à-dire que d'abord, avant de ne pas être jeté, il devrait ne pas être utilisé et être en tissu réutilisable ou justement faire du télétravail. Travail, éviter d'être en contact. Donc on est vraiment là sur une mesure qui est pour nous complémentaire et finale, mais il y a tout un chemin avant cette sanction.
Il ne peut pas y avoir de régression sur la réduction des déchets, estime Surfrider, qui compte sur la loi économie circulaire promulguée au tout début de la crise sanitaire en février dernier.
Enquête de Faustine Calmel. Les fleuristes sont mobilisés aujourd'hui. C'est la fête des mères. Après les mesures de confinement et 2 mois et demi de fermeture, ils espèrent se refaire un peu de trésorerie. Ambiance ce matin à Tours sur le marché aux fleurs. Reportage de Manon Derdevet de France Bleu Touraine.
Son masque sur le visage, derrière son stand au milieu des fleurs, Michael Truchot, producteur de fleurs coupées, attendait la fête des mères avec impatience.
C'est un petit soulagement, oui. Ça fait toujours du bien de voir que les gens sont encore là, consomment et achètent aussi de la fleur française. Oui, oui, on vend forcément plus. Ils ont le plaisir de s'offrir et d'offrir des bouquets de fleurs pour leur maman, qu'ils n'ont pas pu voir depuis... Pour certains, voilà.
Les clients sont nombreux. Morissette vient pour sa maman et aussi pour soutenir son fleuriste.
C'est difficile de choisir. Mettez-moi un bouquet comme ça.
J'ai envie de lui faire plaisir. J'invite tout le monde à aider nos fleuristes à reprendre un peu trésorerie. Alors achetez des fleurs à votre maman.
Mais la fête des mères ne pourra pas compenser les pertes liées au confinement. Selon Marie Sanson, elle travaille au marché aux fleurs depuis de nombreuses années.
C'est pas le même climat de fête des mères que les années précédentes. On n'est pas dans l'euphorie des gens qui veulent acheter à tout prix. C'est pas d'illusion. Si on s'était fait des illusions, on aurait un choix pas possible. Et c'est pas le cas. On a un joli choix, mais on ne s'est pas envolé dans des choses vraiment hors du commun. Par sécurité, pour pas avoir encore des pertes supplémentaires.
Les fleuristes attendent avec impatience les achats de dernière minute de ce dimanche pour savoir si la fête des mères 2020 aura été bonne. D'ordinaire, elle peut représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel.
Le déconfinement et les fleurs avec Manon Dardevet de France Bleu Touraine. Le déconfinement dans le monde de la culture. La reprise s'annonce lente dans les théâtres, même si partout, sauf en Ile-de-France, jusqu'au 22 juin, les salles de spectacle peuvent rouvrir. Pratiquement toutes vont rester fermés jusqu'en septembre. Les spectacles et les tournées ont été annulés. Il y a quelques exceptions. À Marseille, la scène nationale des quartiers nord, la ZEF, ouvre au public dès demain. À Marseille, Olivier Martoc.
Dernière répétition, la comédienne Carole Costantini accepte de se lancer devant le micro tendu.
Si, c'est possible, faut que je me remette dedans. Parce que comme c'est une évocation, c'est aussi une mémoire qui se déroule de Nicolas Bouvier, qui dit « C'était hier ». Plage noire de la Caspienne.
À ses côtés, Alex Moati, le metteur en scène de la compagnie Vol Plané, reconnaît que jouer un livre n'est pas évident.
Alors déjà, quand on est comédien chevronné, apprendre un texte en dialogue, c'est déjà pas mal. Apprendre un livre, c'est quand même très différent. Il n'y a pas la notion de personnage, on est sur un récit. C'est plutôt un travail d'effacement, donc d'accompagner un peu les acteurs, à mettre l'œuvre en premier.
Pour donner un ordre d'idée, pour nous, c'est un mois d'apprentissage, tous les jours.
Le spectacle vivant reprend donc cette semaine sur la scène nationale du ZEF, sous l'impulsion de Francesca Polognato, sa directrice.
On en avait un petit peu marre de subir, et donc là on est en train de agir. Les artistes avaient des projets qui correspondent complètement par rapport aux règles sanitaires qu'on a encore aujourd'hui. Et donc jusqu'à fin juillet, on travaille avec les habitants, on fait des présentations de saison, les artistes sont présents. Le théâtre, il vit quoi.
Les artistes seront dans les murs, mais aussi en dehors du théâtre, dans les cités des quartiers nord, pour jouer en plein air, là où les contraintes sont moins fortes. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
À l'étranger, au Venezuela, la réapparition du chef de l'opposition, Juan Guaido. Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro affirmait il y a quelques jours qu'il s'était réfugié à l'ambassade de France à Caracas. Paris avait démenti. Hier, Valérie Crova, on a vu sur des vidéos Juan Guaido allant à la rencontre de passants.
La scène est filmée près d'une station-service où s'est formée une file d'attente. On ignore où ces images ont été tournées. Masque autour du cou, Juan Guaido s'adresse à un homme qui est sorti de sa voiture, puis à la personne qui le fuit. Cette file d'attente n'est pas normale, dit-il. Le tribunal suprême de justice peut faire ce qu'il veut, on va rester mobilisé. Le procureur général a demandé la semaine dernière à la Cour suprême, acquise au pouvoir, que le parti de Juan Guaido soit déclaré comme organisation terroriste. Le président du Parlement vénézuélien est accusé d'avoir fomenté une tentative d'invasion par mer début mai avec la complicité des États-Unis qui ont formellement démenti. Le choix de Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim en 2019, de se montrer ainsi près d'une station-service est tout sauf anodin. Le Venezuela, qui possède pourtant les plus grandes réserves de pétrole au monde, connaît depuis 2 mois une pénurie d'essence, ce qui a contraint le gouvernement à se tourner vers l'Iran. Englué dans une profonde crise économique, avec une inflation qui devrait avoisiner les 15 000% en 2020, selon le FMI, le pays doit faire face également à l'épidémie de coronavirus.
Valérie Crova, les sports, le tennis sans l'épidémie de coronavirus. Eh bien aujourd'hui, on aurait assisté à la finale homme de Roland-Garros. Le tournoi est reporté, vous le savez, au mois de septembre. Eh bien en attendant, on se réfugie dans les souvenirs. Il y a 32 ans, le 5 juin 1988, un Français était en finale de Roland-Garros. C'était Henri Lecomte. Il a été battu par le Suédois Mats Wilander. Il est revenu sur ce rendez-vous clé dans sa carrière avec Fabrice Abgral.
Être en finale de Roland-Garros, ça reste toujours quelque chose de magique et d'incroyable. À chaque fois que je reviens chaque année à Roland-Garros, j'ai toujours ce frisson, j'ai toujours ce moment où voilà, j'ai raté la dernière marche. C'est un moment qui reste magique parce que aller en finale d'un tournoi du Grand Chelem, et surtout à la maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc même après 32 ans, je peux vous dire que voilà, les sentiments sont toujours là, le regret est toujours là, mais la fierté est là aussi.
32 ans après,
Quel regard vous portez sur le tennis actuel?
C'est pas le même sport. On boxe pas dans la même catégorie. Les joueurs ont une préparation, ont un matériel qui a complètement innové. Tout a évolué.
À quand un Français en finale de Roland-Garros?
Il y a un joueur qui commençait à faire une saison extraordinaire et qui était sur une lancée positive, c'était Gaël Monfils. Et je pense que c'est le seul joueur aujourd'hui qui est capable de vraiment hausser son niveau de jeu et de faire peur. Et je pense que Gaël est le joueur.
Henri Lecomte, ses souvenirs et ses prévisions. Henri Lecomte avec Fabrice Abgral. C'est la fin de ce journal.